VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 5 août 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, le camp présidentiel perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale après les législatives de dimanche. Signature à Bissau d'un accord de paix entre le gouvernement sénégalais et des rebelles de Casamance. Au Tchad, la junte publie la liste des participants au dialogue national prévu le 20 août. L'ONU confirme des attaques de l'armée rwandaise en RD Congo. Kigali récuse de telles allégations. Les États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan, assure Nancy Pelosi, chef de la Chambre américaine des représentants. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, la coalition du président Macky Sall a perdu sa majorité absolue au Parlement, mais elle est arrivée en tête d'une courte marge lors des législatives de dimanche. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés hier soir à Dakar. Mohamed Oumfa.
Beno Bokyakar, la coalition autour du président Macky Sall a remporté 82 sièges sur les 165 que compte la future Assemblée selon la Commission nationale de recensement des votes. C'est une baisse par rapport aux 125 sièges qu'elle avait en 2017. Les coalitions d'opposition ont obtenu 80 sièges. La principale, Yewi Askanoui, qui signifie « libérer le peuple » en Wolof, avait formé une alliance avec Walou Sénégal ou Sauver le Sénégal, dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade. Elles ont remporté respectivement 56 et 24 sièges. Trois autres sièges ont été remportés par trois petites coalitions qui pourraient servir de faiseurs de roi. Les chiffres définitifs doivent être publiés par la plus haute juridiction 5 jours suivant l'annonce des résultats si aucun parti ne fait appel. L'opposition avait déjà commencé à gagner du terrain lors des élections municipales de janvier. C'est la première fois depuis l'indépendance en 1960 que le parti au pouvoir perd la majorité à l'Assemblée alors que le Sénégal se dirige vers une élection présidentielle en 2024.
Le gouvernement sénégalais a signé hier à Bissau un accord de paix avec des rebelles de Casamance. Ces derniers se sont engagés à déposer les armes et à œuvrer pour le retour définitif de la paix dans cette région, théâtre d'une des plus vieilles rébellions africaines en activité. Le chef rebelle César Atout Badiat, à la tête d'une unité du MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance, et un émissaire du président Macky Sall, ont signé cet accord à la présidence de la République Bissau-Guinéenne. M. Sall a fait de la paix définitive en Casamance l'une des priorités de son second mandat. La junte militaire au Tchad a publié la liste des participants au dialogue de réconciliation nationale prévu le 20 août. L'opposition a fait état de ce qu'elle appelle un débat biaisé en amont. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon un décret signé par le premier ministre de transition, Albert Paimi Padake, 1360 personnes participeront au dialogue national inclusif, dont des représentants de la société civile, des syndicats et du gouvernement. Plusieurs dizaines de représentants des groupes armés doivent également y participer en attendant la signature de l'accord avec la junte à Doha. C'est une structure qui est représentative, s'est félicité le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamala. Nous avons respecté un équilibre entre les différentes composantes de la société alors que personne ne nous a obligés à faire ce dialogue. Mais pour l'opposant Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, ce débat est biaisé puisque 80% des participants sont issus, selon lui, de l'ancien système. Au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, en avril 2021, son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été proclamé président à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux. Il avait aussitôt promis des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois, après un dialogue national inclusif avec toute l'opposition politique et tous les nombreux groupes rebelles.
L'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la République démocratique du Congo ces derniers mois, directement et en soutien à des groupes armés, selon un rapport d'experts missionnés par les Nations Unies, consulté jeudi par l'AFP. Rosine Mounezero.
L'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021, selon ce rapport transmis au Conseil de sécurité. Les experts indiquent que Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer de villes et de zones stratégiques. Kigali a récusé jeudi des allégations non valides et avancé son droit à défendre son territoire. Le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens et pas seulement d'attendre qu'une catastrophe se produise, a déclaré Yolanda Makolo, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué diffusé dans la soirée. Kinshasa a accusé Kigali de soutenir la rébellion du M23, ce que le Rwanda dément.
Une résurgence du choléra a fait 200 morts depuis octobre 2021 au Cameroun, où plus de 10 300 cas de cette maladie ont été répertoriés, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Manuada Malachi. 5 des 10 régions que compte le pays, dont le littoral qui comprend Douala, la capitale économique, et la région du centre qui englobe la capitale Yaoundé, sont touchées par l'épidémie, selon le ministre. Au total, 24 personnes sont mortes, dont 13 dans l'effondrement de leurs habitations et 11 par noyade, tandis que 54 653 autres sont sinistrées suite aux fortes pluies qui tombent depuis juin, selon les chiffres des services de la protection civile communiqués à l'AFP. Au moins 36 blessés ont également été dénombrés. Dans les régions les plus touchées sont celles de Zinder, Maradi et Diffa, la capitale Niamey. Mais habituellement davantage frappé par les pluies et les inondations, est pour le moment épargné.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des avions et navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale, a affirmé vendredi le ministre taïwanais de la Défense, dénonçant des exercices militaires hautement provocateurs. Hier, la Chine a tiré des missiles qui auraient survolé l'île et seraient tombés pour la première fois dans la zone économique exclusive japonaise au premier jour de ses manœuvres militaires d'ampleur inédite autour de Taïwan. Ces exercices sont en réponse à la visite à Taipei de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, qui a suscité l'ire de Pékin. Aujourd'hui à Tokyo, Mme Pelosi a déclaré que les États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan. Pékin considère ce territoire comme faisant partie intégrante de la Chine. 4 policiers américains ont été inculpés hier par le ministère de la Justice pour leur rôle dans la mort d'une jeune femme noire, Breonna Taylor, devenue une icône du mouvement Black Lives Matter. Le point avec Eric Manirakidza.
Un des agents est accusé d'usage excessif de la force, les 3 autres d'avoir falsifié le mandat de perquisition à l'origine de l'opération. Les accusés savaient que le mandat contenait des informations fausses et trompeuses et que d'autres informations avaient été omises, a précisé le ministre de la Justice Merrick Garland. Ils savaient que cela pouvait créer une situation dangereuse et nous soutenons que ces actes illégaux ont entraîné la mort de Mademoiselle Taylor, a-t-il ajouté. L'annonce de ces poursuites a été saluée par les proches de Breonna Taylor, qui ont demandé le renvoi immédiat des agents encore en poste. « Cela faisait 874 jours que j'attendais ça », a réagi la mère de la jeune femme, Tamika Palmer. Le nom de Breonna Taylor avait été scandé dans toutes les manifestations antiracistes de l'été 2020 lors de la mort de l'Africain-américain George Floyd, étouffé par un policier blanc. Pour apaiser le climat et mettre un terme à une plainte civile, la mairie de Louisville avait accepté de verser 12 millions de dollars à la famille de Breonna Taylor et d'engager de premières réformes de sa police. Les pratiques de ces forces de l'ordre font par ailleurs toujours l'objet d'une enquête du gouvernement fédéral.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement va céder 9,95% de sa participation de 14,95% dans Orange CI sur la Bourse régionale des valeurs mobilières. Près de 15 millions d'actions seront cédées à 9 500 francs CFA l'unité. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a déclaré que 80% de la participation de l'État qui sera vendue est réservée aux Ivoiriens afin de soutenir l'économie nationale. Selon l'association bananière du Cameroun, les trois grands producteurs du pays ont exporté 13 203 tonnes de bananes le mois dernier, une augmentation de 6% par rapport à juillet 2021. L'entreprise publique CDC, à elle seule, a vu ses exportations augmenter de 58%. La société des plantations du Openja et Beau Plantation PLC n'ont enregistré que de faibles progressions, indique la Sobacam. Les travaux de l'atelier virtuel de concertation entre la commission de l'UEMOA et les acteurs de la filière riz ont pris fin hier. Le commissaire chargé du département de l'agriculture, Kako Nubukpo, a rappelé que le riz fait l'objet d'une offre locale déficitaire face à une forte demande de consommation, soulignant que les importations entraînent des pertes considérables pour les économies des États membres.
Merci Nathalie. Pour à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Guinée reste le pays organisateur de la CAN 2023.
C'est ce qu'a réaffirmé en conférence de presse hier jeudi le ministre guinéen des Sports, Lansana Beya Diallo. Fin juillet, le président de la Fédération nigériane de football, Amadou Pinnick, avait affirmé que son pays va être candidat avec le Bénin à une co-organisation de la CAN 2025. Amadou Pinnick étant membre du comité exécutif de la CAF, cette affirmation a laissé sous-entendre un retrait de l'organisation de la compétition attribuée à la Guinée. Nous avons joint à Conakry le ministre guinéen des Sports, Lansana Beya Diallo.
La Guinée aujourd'hui est plus qu'en avance sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et que la détermination de l'organisation de cet événement est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était encore hier. En 8 mois, nous avons réussi à faire des avancées qui sont énormes. On est effectivement dans la phase aujourd'hui où les entreprises ont terminé les études et on va arriver dans la phase effectivement de l'effectivité de la construction des infrastructures.
La CAN 2025, c'est très bientôt, hein, dans 2 ans et demi pratiquement. C'est quand même 6 stades, hein, parce qu'il y a désormais 24 équipes pour cette CAN-là. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, vous serez vraiment prêt?
Oui, nous serons plus que prêts parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises d'ailleurs qui ont été choisies, ce sont des entreprises qui sont déjà certifiées CAF, certifiées FIFA, qui ont déjà construit plusieurs stades dans le monde. Et le délai de construction aujourd'hui, dans les conventions que nous avons mis en place, sont de 18 mois. Au-delà de ces 18 mois de construction, vous devez savoir aussi que les modèles de stades que nous avons choisis en Guinée sont complètement différents de beaucoup de pays. Nous avons fait des choix de construire des stades de 15 000 places et de 20 000 places pour pouvoir être justement dans une réalité et ne pas se retrouver avec des stades demain fantômes où on n'a pas la capacité de l'entretenir, où on n'a pas la capacité d'en faire des enjeux où on peut les remplir. On a choisi 2 stades, un de 50 000 places qui existe déjà et un de 40 000 places qu'on va construire à Conakry. Et qui sont en plus au-delà du choix qui est fait, sont des stades aussi qui sont des stades amovibles. Donc ça veut dire que nos orientations stratégiques qu'on a mises en place, si on estime que les 20 000 places ne peuvent pas être optimales dans les différentes villes, on pourra les bouger et les mettre dans d'autres villes pour construire encore d'autres stades.
C'était donc le ministre guinéen des Sports, Lansana Beya Diallo, joint à Conakry.
Brittney Griner condamnée à 9 ans de prison.
Oui, le tribunal de Khimki, près de Moscou, a reconnu la star américaine du basket féminin coupable de possession et de trafic de drogue. Elle a écopé de 9 ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Selon la juge Anna Sotnikova, Brittney Griner a été arrêtée en février avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis en arrivant à Moscou. La double championne olympique dit avoir apporté cette substance en Russie par erreur et refute tout trafic de stupéfiants.
Les réactions à cette condamnation n'ont pas tardé.
C'est inacceptable et je demande à la Russie de la libérer immédiatement afin qu'elle puisse retrouver sa famille, ses proches et ses coéquipiers, a réagi le président Joe Biden dans un communiqué. La Ligue féminine nord-américaine de basketball, WNBA, et la NBA ont réagi dans un communiqué conjoint, déplorant une condamnation injuste et regrettable. Pour le Phoenix Mercury, son équipe de WNBA, la condamnation de Brittney Griner marque une étape importante dans le cauchemar qu'endure depuis 168 jours leur sœur. Plusieurs sportives et sportifs ont exprimé pareil désarroi. Un hashtag FreeBG libéré Britney Griner est relayé sur les réseaux sociaux.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Rwanda salue la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Rwanda la semaine prochaine. Le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération a indiqué ce jeudi que le Rwanda attend échanger avec le chef de la diplomatie américaine sur les questions bilatérales entre les deux pays et sur les défis sécuritaires dans la sous-région. De Kigali, notre correspondant Jean Damascène Manishimwe.
Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération a indiqué que le Rwanda attend échanger avec le diplomate américain sur divers domaines de partenariat tels que le maintien de la paix, le commerce et les investissements, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique et bien d'autres. Le communiqué précise que la solution aux défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs reste une priorité pour le Rwanda et qu'il est toujours attaché aux mécanismes régionaux mis en place pour les surmonter. Pour Tite Gatabazi, juriste et analyste politique dans la région des Grands Lacs, le périple du secrétaire d'État américain démontre l'importance que les États-Unis accordent à la sous-région.
Ah, c'est le premier diplomate américain. Habituellement, vous savez qu'il y a un sous-secrétaire chargé des affaires africaines. Maintenant, c'est le secrétaire d'État lui-même qui se déplace. Ça veut dire qu'il montre d'abord que le gouvernement de Joe Biden est préoccupé par la situation dans la région des Grands Lacs. Ensuite, il montre qu'il porte l'intérêt à la dynamique du processus de Nairobi, ce qui me paraît plutôt positif sur le plan diplomatique.
Cet analyste politique estime aussi que la tournée d'Anthony Blinken dans la sous-région pourrait contribuer à apaiser les tensions qui s'y observent actuellement.
Si le secrétaire d'État américain se déplace dans la sous-région, il commence par Kinshasa, après il vient à Kigali. Cette visite peut au moins permettre à chaque État d'expliquer et de donner des faits réels de ces récriminations. Ça s'est fait dans plusieurs canaux diplomatiques. C'est l'occasion pour les États-Unis au plus haut niveau de donner aussi leur point de vue au regard de ce qui leur a été fourni comme information factuelle.
Le gouvernement du Rwanda a également fait savoir que le cas du Rwandais Paul Rusesabagina, condamné pour terrorisme au Rwanda, sera au menu des discussions avec le diplomate américain, précisant tout de même que sa condamnation par la justice rwandaise a respecté les principes du droit national et international. Jean Damascène Manishimwe à Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dit être incapable de répondre aux besoins humanitaires croissants faute d'argent. Le HCR demande aux bailleurs de fonds de mettre d'urgence la main à la poche pour aider les nombreux réfugiés et déplacés dans le pays, nous dit de Goma notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Dans un communiqué signé à Genève et rendu public le 2 août, le HCR, dû ne plus être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires croissants, son intervention en RDC est à l'une des plus sous-financées au monde. Cette annonce n'est pas bien tombée dans les oreilles de certains Congolais qui craignent déjà les pires. Roger Mouniré est responsable d'une organisation locale d'accueil des déplacés et réfugiés de la province du Nord Kivu.
Notre crainte est que nous encadrons des femmes, des enfants, des vieillards qui sont là en difficulté. Nous aurons problème de cantonnement dans nos sites et là il y a risque de pertes en vie humaine. Nous pouvons encore trouver beaucoup de problèmes par rapport à ça.
Jusque-là, il n'est pas question pour les HCR d'arrêter l'intervention, mais son chargé des communications, Joël Smith, dans une interview accordée à VOA Afrique, lance la sonnette d'alarme.
C'est important à clarifier que l'HCR n'arrête pas son assistance aux personnes déplacées et réfugiées. Au niveau national, le chiffre déplacé interne en RDC a augmenté 600 000 depuis le mois de novembre 2021. Nous aimerons alerter la communauté internationale pour que plus d'attention soit aussi orientée vers la RDC, qui vit une des crises humanitaires le plus complexe du monde.
Si rien n'est fait, l'assistance du HCR sera considérablement réduite, prévient Joël Smith.
Pour l'instant, avec ses fonds propres et ses quelques donations, le HCR continue de donner une assistance humanitaire, mais qui sera réduite si les moyens ne suivent pas.
Pour Johnson Butaragaza, un acteur politique, le gouvernement congolais devrait tirer les leçons de cette alerte du HCR et comprendre quelle assistance des déplacés internes est dans ses responsabilités.
La prise en charge des déplacés internes en tant que pays, ça revient au gouvernement congolais. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que le monde est secoué par des crises majeures, la COVID-19, mais également à la guerre qui se passe en Ukraine et la Russie. Et en tant que gouvernement, la souveraineté de notre peuple veut à ce que ce soit les gouvernements qui prennent tout ça en charge. Donc, il devrait avoir plutôt un plan de contingence interne.
Les HCR soutiennent les gouvernements congolais depuis plus de 45 ans afin d'assurer la protection et l'assistance humanitaire aux personnes forcées de fuir leur maison à cause des conflits récurrents. Zanem Netizaï Diagoma, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Togo, la situation sécuritaire dans le nord du pays oblige le gouvernement à se concerter avec la classe politique. Une rencontre avec 6 partis politiques vient de se tenir sous la houlette du Premier ministre. Les opposants n'ont pas hésité à faire des propositions pour une meilleure lutte contre le terrorisme. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
L'intention du gouvernement, à travers cette rencontre, est d'informer les acteurs politiques sur la situation sécuritaire dans le nord du pays, sujet à des attaques terroristes depuis quelques mois. Christian Trimoin, porte-parole du gouvernement.
La rencontre a permis de présenter l'ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement d'un point de vue militaire, sécuritaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, pour accompagner la lutte et faire en sorte que, à la fois, nous puissions résister, mais également que nous ayons les moyens de la résilience.
Selon Elliot Orin, cadre de l'Union des forces de changement, parti de l'opposition, cette rencontre a été utile puisqu'elle a permis de mieux comprendre la situation qui prévaut dans le nord Togo.
Mais il y a des choses qu'on ne savait pas exactement concernant, par exemple, comment les attaques se font. Ils nous ont décrit exactement comment les choses se passaient. Les gens qui débarquent dans les villages et qui laissent leur moto loin du village et qui viennent à pied et tout ça, là, il faut se méfier de tout ça. Nous devons communiquer avec la population pour leur dire exactement comment se méfier et comment éviter ces choses-là.
Beliki Akwete, président de la Convention patriotique panafricaine, parti extra-parlementaire, réagit.
Je ne dirais pas que cette rencontre a été utile, mais c'était nécessaire pour qu'on se parle et qu'on se dise certaines choses et aller de l'avant. Les sujets n'ont pas été tabous. Les questions d'intérêt politique et d'intérêt national ont été mises sur la place publique aujourd'hui devant nous tous. Et nous avons eu à faire le tour d'horizon et faire en sorte que le Togo retrouve sa stabilité et sa paix.
Les partis politiques ont aussi fait des propositions. Jerry Tama, député de l'opposition, membre du parti Le Net.
Le gouvernement doit faire en sorte que la précarité ne soit pas le terreau du terrorisme, qui ne jette pas les jeunes dans les bras des terroristes. Le deuxième élément, c'est bien entendu tout ce qui concerne la cohésion entre les populations locales et les forces de défense. Et la troisième mesure, c'est tout ce qui concerne le programme d'urgence. Ne pas commettre l'erreur de s'occuper uniquement de la région à Savane, puisque l'ensemble du pays est sinistré.
Maître Tchassona Traoré du MCD se préoccupe du respect des libertés publiques.
La lutte contre le terrorisme ne doit pas éluder les autres attentes des citoyens au niveau des libertés et qu'il doit avoir un juste milieu, un bon dosage entre les préoccupations dans le cadre de la défense de notre territoire et également les libertés publiques qui doivent également être défendues.
À cause de la situation sécuritaire, le gouvernement avait interdit par deux fois des manifestations prévues par des partis d'opposition, dont celui de la Dynamique, Monseigneur Podro. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Sénégal, la Commission nationale de recensement des votes a donné les résultats provisoires des législatives hier jeudi. La coalition présidentielle y a laissé des plumes, même si elle arrive en tête du scrutin. Nous dit de Dakar notre correspondant Sédina Abagué.
La majorité, oui, mais pas la majorité absolue. La coalition Benno Bokoyakar du président Macky Sall n'a pas atteint le nombre des 83 députés nécessaires pour avoir la main mise sur l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort des résultats proclamés par Siré Aliba, président de la Commission nationale de recensement des votes.
La coalition Benno Bokoyakar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. La coalition Wallou-Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewi-Askanui obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges.
Fort de son score et des 80 députés glanés, l'intercoalition Yewi-Wallou dénonce des irrégularités profondes dans les procès-verbaux du Grand Nord du Sénégal favorables au camp présidentiel. Détié Fall, mandataire national de la coalition Yewi-Askanui.
Des PV sur lesquels il n'y a aucune signature, aucune. Ni les signatures du président du bureau de vote, de son assesseur et de son secrétaire, ni les signatures des représentants des coalitions. D'autres types d'irrégularités, l'autre type, ce sont des PV sur lesquels il n'y a que les signatures de l'administration, à savoir le président du bureau de vote, son assesseur et son secrétaire, et aucune signature des représentants des coalitions.
Des allégations sans fondement solide d'après la mouvance présidentielle. Son mandataire national, Maître Ousmane Seyi, affirme que l'opposition n'a même pas de représentants dans les zones où elle dénonce d'éventuelles irrégularités.
Ce n'est pas un droit parce que normalement, Yewi devait avoir des représentants dans tous les bureaux de vote et au niveau de la commission départementale. Et chaque représentant devait avoir une copie du procès-verbal. Donc c'est à partir de ces copie des procès-verbaux que Yewi devait faire des observations, s'il en avait, au niveau de la Commission nationale. Mais on ne peut pas venir les mains vides devant la Commission nationale de recensement des votes, demander à la Commission de vous fournir les preuves de vos allégations et de vos observations. C'est inédit.
En attendant la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, la coalition au pouvoir totalise 82 députés contre 80 pour l'intercoalition d'opposition Yewi-Wallou. Le choix de la coalition qui aura la majorité absolue avec 83 députés revient ainsi aux coalitions Art Sénégal, Les Serviteurs et Boku Gis Gis, qui ont chacun un siège et qui pourront faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alamassi et à la console, Zoubert Al-Taïb. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Danger.
Oye, no hay de hoy, 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 de